RFI. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots, une danse des mots qu'on va faire à l'ombre aujourd'hui, puisqu'elle est consacrée aux arbres. Aux arbres vraiment, non pas vraiment, au nom des arbres, à l'ombre donc d'un livre majestueux qui s'intitule « La majestueuse histoire du nom des arbres » et que nous devons à Pierre Havenas et à Henriette Walter. Alors, une majestueuse histoire, ça fait envie, mais malgré tout, le livre est sous-titré « Du modeste noisetier » au séquoia géant. Bonjour à tous les deux, donc bonjour Henriette Walter, vous
bonjour.
Êtes une habituée, presque une habituée, j'exagère, mais bon, on vous est déjà entendu dans la danse des mots, puisque vous êtes une linguiste tout à fait reconnue. Pierre Havenas, merci beaucoup de venir, vous êtes ingénieur, mais vous êtes naturaliste, ça fait un peu à l'ancienne ce mot, est-ce que vous êtes botaniste? Je sais que vous l'êtes à vos heures, et que vous avez travaillé sur 4 ouvrages avec Henriette Walter, qui sont consacrés au nom des mammifères, des oiseaux, des poissons, et là, au nom des arbres. Majestueuse histoire, mais vous dites que le noisetier est modeste, ce qui est beaucoup plus sympathique que majestueux, et que le séquoia est géant. Alors, je pensais y venir tout à l'heure, mais comme ce mot de séquoia est sur la première page de votre livre, qui est publié aux éditions Robert Laffont, dites-nous un petit peu, Henriette, Walter et Pierre Havenas, ce que c'est qu'un séquoia et pourquoi séquoia, d'où nous vient ce mot
étonnant. Voilà. Alors, pour moi, c'est un des plus jolis mots de notre livre, c'est ça de ce que je préfère, parce que séquoia était je ne sais plus quel était son métier, mais il n'était pas linguiste.
Vous voulez dire que séquoia était
son nom,
un homme avant d'être un arbre.
C'est le nom de ce monsieur, oui. De ce monsieur qui était amérindien, qui faisait partie d'une tribu Cherokee, et qui a eu l'idée de fabriquer un alphabet pour sa langue. Et ça, c'est extraordinaire parce que il est très difficile de trouver des textes écrits pour les langues amérindiennes. Et là, il a eu cette majestueuse idée, justement. Et donc, c'est le nom qui me plaît beaucoup, en fait. Voilà.
Ce qui va donc permettre d'apparier le nom des arbres au monde de la langue et au monde de la lecture. Le mot « livre » lui-même a quelque chose à voir avec les arbres.
Alors, évidemment, « libère » en latin, « libère ». Et le mot « libère », d'ailleurs, existe encore en français, en botanique, disons, puisque c'est le tissu végétal sur lequel on a commencé à écrire.
Parce qu'on a écrit sur des écorces pendant longtemps.
Exactement. Et alors, ce qu'il y a, c'est que on se souvient bien de ces statues romaines, etc., où on a déjà qui sont en train de lire, mais c'est enroulé. C'était enroulé parce qu'évidemment c'était du tissu et que on pouvait évidemment le mot volume d'ailleurs vient de volvere latin qui veut dire enroulé.
Oui, ça s'enroule absolument. Voilà. Alors le mot de livre donc, nous renvoie à une origine latine. Le mot séquoia nous renvoie à une image à une origine amérindienne et en
mais
particulier
Cherokee. Mais c'est un nom, c'est le nom de quelqu'un.
Oui, absolument. Oui. Est-ce que le nom des arbres, on sait qu'il y a une très grande partie du vocabulaire français qui vient du latin, même si les mots latins venaient bien sûr d'autres langues, notamment du grec, mais pas uniquement.
Pas forcément.
Est-ce qu'on retrouve à peu près la même proportion dans les origines du lexique français en général et du lexique des arbres? Ou bien est-ce qu'on fait davantage droit à un certain exotisme, sachant que souvent, les arbres ont été amenés de pays lointains?
Voilà. En tout cas, moi, ce qui m'a surprise lorsque nous avons commencé à travailler, c'est de voir l'extraordinaire nombre d'arbres qui ont des noms qui viennent de pays exotiques, de pays lointains. Alors que, très souvent, bien sûr, c'est aussi le latin, bien sûr,
bien sûr,
le grec.
Les latins et les grecs, d'ailleurs, ont été remarquables parce que nous avons repéré 70 noms d'arbres qui sont déjà bien spécifiés en grec et en latin. Et c'est une bonne proportion des arbres européens. Parce qu'évidemment, on ne peut pas leur demander d'avoir trouvé des noms, par exemple au séquoia qui vient d'Amérique.
Ils ne le connaissaient pas.
Ils ne le connaissaient pas, et ni l'eucalyptus qui vient d'Australie.
Oui.
Une bizarrerie d'ailleurs dans le domaine des noms d'arbres en latin et en grec, vous le savez, les noms d'arbres sont pratiquement toujours féminins.
Il y a arbor tout petit féminin nom. En latin.
Arbor déjà est féminin au départ. Bon, l'idée qu'on a, c'est que l'arbre, il produit des fruits, donc il est femelle. L'arbre
enfante
les fruits comme des animaux.
Il est quand même très ambigu parce que le symbole est nettement masculin.
Alors voilà, mais c'est tellement ambigu que, notamment en français, toute la grammaire a basculé au masculin. Mmh. Et en bas latin, le mot arbor prend le genre masculin. Fagus, le hêtre qui est féminin, devient masculin. Et aujourd'hui, tous les noms d'arbres en français sont masculins.
Est-ce qu'il y a eu des noms d'arbres qui ont été féminins en moyen français ou en ancien français? Est-ce que cette bascule que vous venez d'évoquer, Pierre Avenas, elle se passe en latin tardif ou bien parfois en français, ou bien c'est difficile à dire, parce que souvent les arbres ont des noms en effet qui renvoient à une langue populaire plus qu'à une langue écrite,
bien
et qu'on
ne
peut pas savoir exactement si les gens parlaient de une ou de un.
Voilà.
Oui, il y a même eu, à certains moments, les deux genres ont coexisté. Hein. C'est pas très précis, je pense, le passage de l'un à l'autre. Mais c'est très frappant. Par exemple, on parlait de platane tout à l'heure. C'est vraiment frappant. Platanos en grec, c'est féminin. Platanus en latin, c'est féminin. En allemand aussi, ça mérite d'être souligné, tous les noms allemands d'arbres qui ne sont pas des noms composés, hein, qui se finissent
quand
pas par Baum, voilà, ou même d'autres compositions, les noms, j'allais dire un peu originels, comme par exemple le platane, c'est plataneux en allemand, c'est féminin, voilà. Et par contre, en français, on va dire le platane, alors que c'est un mot qui méritait aussi bien d'être une platane.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'arbre est du masculin, mais ce qu'il donne est presque toujours du féminin. On dit un fruit, mais on dit une pomme, une poire, une pêche, une banane, une noix de coco.
Oui, ça c'est... Alors, faut dire aussi qu'en latin, les noms de fruits étaient neutres, en vérité. C'est-à-dire que la poire, c'était pyrum, neutre. Et au pluriel de hum latin, c'est le a, pyra. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a assimilé fautivement le pluriel neutre à un féminin. C'est un peu comme ça que c'est venu,
c'est
n'est-ce
ça, exactement.
Henriette,
mais ce qu'il y a, c'est que...
Il y a plein d'exemples comme ça.
C'est-à-dire que, comme vous disiez, c'est le latin vulgaire, d'une certaine manière.
Bien sûr, c'est
on
la
entend
parlée.
Un A, on
c'est
dit,
la langue des agriculteurs,
féminin,
c'est pas la langue des
ça
botanistes.
Peut être féminin. Voilà. Mais quand même, ce qui est étonnant, c'est que, en latin, généralement, c'est pour le nom de l'arbre, bien sûr, c'est en us, us. Et non pas, et c'est US. Or, US, c'est la deuxième déclinaison.
Ça peut être la quatrième. Hein.
Et ça peut être la quatrième en plus, mais la plupart du temps, la deuxième déclinaison ou la quatrième, c'est des masculins. Oui. Sauf pour les arbres. Ce qui est intéressant, c'est que finalement...
L'agriculture est une exception. Regardez Agricola, qui veut dire
agricola,
un agriculteur.
Poeta, attendez,
c'est du masculin, c'est un homme.
Poeta aussi.
Ben oui.
Oui, les noms de métiers, des noms de métiers sont
les noms de métiers,
comme ça.
Oui, c'était la même chose.
En dehors, les chemins forestiers, ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc. Il eût connu des jours filés d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient, des roseaux mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ses petits rejetons, tout juste canne à pêche, à peine mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il fût en bois, les chênes s'écourant, la fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en butte aux lazis, il se résolut à l'exil. À grand peine, il sortit ses grands pieds de son trou est parti sans se retourner ni peu ni prou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit de quitter l'ingrate patrie. Alors,
la majestueuse histoire du nom des arbres dans la danse des mots, avec vous Henriette Walter et Pierre Avenas. On vient bien sûr d'entendre Georges Brassens. Ce n'est pas Brassens que je veux. Oui,
oui. Alors justement, il demande à être enterré sous un parasol. Oui, oui.
Parasol de préférence, dit-il dans la supplique.
Et nous le citons évidemment dans le livre, parce que c'est tellement joli.
Je suis allé le voir, bien sûr,
ce pain parasol.
Alors, il ne fait pas encore d'ombre sur la tombe, malheureusement, parce qu'il est trop jeune. Il est trop jeune. Non, mais ça viendra.
Il est mort en 80.
Oui, mais il faut quand même des centaines d'années.
Ça ne suffit pas.
Non, j'ai vérifié, il est encore trop petit. Mais il est bien là. En effet, on a respecté la volonté. Vous savez qu'un autre poète a demandé quelque chose comme ça,
c'est Musset,
qui a son saule. Sauf que là, il y a un autre problème, c'est que le terrain est très argileux au Père-Lachaise, et le pauvre saule, il a beaucoup de mal à subsister, on le remplace régulièrement, il n'est pas très pleureur.
Ah bon,
et je crois que Musset serait pas très content de voir
le saule qu'on lui a laissé. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'aimerais bien qu'on parle des gens, justement, dont le métier était de donner leur nom aux arbres, en particulier Buffon et Linné, qui étaient donc deux personnages, l'un français, Buffon, l'autre suédois, Linné.
Ce qu'il y a, c'est que Buffon, pour les arbres, on ne les a pas beaucoup cités, parce que nous avons beaucoup travaillé la question avec les oiseaux. Et Linné et Buffon étaient de la même époque, ils étaient nés à peu près à la même date.
Mais ils n'avaient
pas du tout les mêmes. Ils n'avaient pas du tout les mêmes idées sur la classification. C'est Linné qui a gagné, puisque aujourd'hui la classification binominale est celle qui est devenue internationale et tout le monde l'accepte.
Alors qu'est-ce qu'on entend par binominale en
Alors binominale, c'est-à-dire que le premier nom indique le genre et le deuxième c'est l'espèce. Donc avec ça, on est tranquille, on est sûr qu'on parle bien de la même chose. Quelquefois, il y a des sous-espèces que l'on note ensuite avec un troisième nom. Oui, je voulais dire que quand nous avons travaillé sur les oiseaux, on a souvent lu ce qu'en disait Linné et ce qu'en disait Buffon, et on est, en tant que Français, bien sûr, on est très content de lire tout ce que raconte Buffon. Il raconte beaucoup d'histoires.
C'est un conteur.
Est conteur. Et puis c'est de la littérature. C'est très joli ce qu'il raconte. Linné, c'est pas pareil. Linné, c'est le grand savant qui écrit en latin, et c'est toujours télégraphique. Donc on peut jamais savoir ce qu'il avait derrière la tête quand il a donné ce nom. Est-ce que c'est lui qui l'a donné ou pas? Enfin, la plupart du temps, on dit elle, on dit Linné.
Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même une grandeur étonnante à ces personnages qui étaient des espèces d'Adam du XVIIIe siècle. Parce que en nommant ce qui existe, on le fait exister.
Oui, c'est ce qu'on demande dans la Bible. C'est la première tâche qu'on demande à Adam dans la Bible.
Absolument.
Cela étant, nous, on adore aussi, si on revient aux arbres, parce qu'on était... C'est quand même Théophraste. Théophraste, qui était le bras droit d'Aristote et qui est, à mon avis... assez mal connu quand même. Tout le monde connaît Aristote.
Tout le monde ne le connaît pas. Tout le monde en a entendu parler.
Souvent le nom de Théophraste lui-même n'est pas connu. Et Théophraste, d'ailleurs, c'est un nom qui veut dire Théo Dieu, Phrasine expliquée. Et c'est Aristote lui-même qui a donné à son second, qui s'appelait en réalité Tyrtamos en grec, et il l'a appelé Théophraste, tellement il était impressionné par l'intelligence de ses discours.
Alors ce n'est pas celui qui explique Dieu, mais c'est plutôt celui qui explique comme un Dieu.
Oui, divinement bien.
Il explique divinement.
C'est ce que je pense en tout cas.
Alors, un mot peut-être sur les origines des noms, justement, d'arbres. Il y en a beaucoup, tout à l'heure on évoquait justement la géographie, il y en a qui font penser par exemple au midi, l'abricotier, albicoco, etc. Le micocoulier, dont vous dites qu'il a des origines provençales ou espagnoles.
Oui, mais dont le nom, alors ça c'est vraiment le cas unique du livre, micocoulier a priori vient du grec moderne, pas du grec ancien, du grec moderne. ça veut dire quelque chose comme petite coquille, petit fruit, parce que vous savez, le bicoquelier produit des espèces de micro-cerises qui, dans le temps, se mangeaient, d'ailleurs, parce qu'on mangeait un peu tout ce qu'on trouvait en Europe.
Quoi.
La micoquelle, ça se mangeait, c'est pas très bon. Maintenant, on n'en est plus là. Mais donc, le micoquelier, il a... Alors que en grec, le micoquelier se disait lotos, comme le lotus, et il y a toute une légende là-dessus. Ça rejoint un autre arbre qui est le jujubier. Bon, c'est un petit peu long de détailler tout ça.
Et le cocotier, alors? Pourquoi coco? Parce que ça, alors, c'est une vraie histoire.
Ça,
enfin, une fausse histoire, mais en tout cas, c'est une histoire.
Alors, on l'a trouvé parce que coco est, semble-t-il, ce que les petits Portugais, la manière dont les petits Portugais appelaient des petits fantômes, des poupées fantômes qui leur faisaient peur, enfin dans les jeux d'enfants, les marionnettes, etc. Et il est dit que à l'époque de Vasco de Gama, ce terme de coco qui venait du Portugal a été donné aux noix de coco, parce que si vous regardez une noix de coco avec les deux pores, ce sont des pores de respiration, et le point d'attache de la noix de coco, il y a trois éléments, on dirait deux yeux, une bouche. Et souvent, la noix de coco est un peu filandreuse, comme si c'était des cheveux. Donc, en effet, une noix de coco...
Ça fait un peu une phase de carême.
Ça fait une petite tête, voilà, une petite tête de poupée menaçante, un peu.
Oui,
voilà.
Mais aux Seychelles, par exemple, on voit de très énormes...
Oui, c'est autre chose, là.
...qui sont, qu'on appelle d'ailleurs des coco-fesses.
Oui, là, on est dans un autre...
Donc c'est autre chose.
Et puis, il y a d'autres mots dont on aimerait bien savoir pourquoi ils sont liés à un certain nombre d'impressions ou même de sentiments. Le laurier, par exemple, qui évoque la victoire. Pourquoi ? Quel est le lien entre laurier et victoire ?
Alors là,
d'où vient ce mot de laurier,
oui,
déjà?
Allez-y, Pierre.
Oui, non, mais laurier, enfin, pas une origine très très claire, mais ce qui est sûr, c'est que le roi Latinus, qui était un des premiers rois du Latium, qui a donné plus tard son nom au latin, avait dans son palais un laurier sacré. Alors, le laurier, c'est une plante aromatique. Tout ce qui est aromatique dans l'ancien temps, ça avait de l'importance. Il y a les baies de laurier,
et donc et puis, qui se mangent et tous les autres sont des poissons.
Alors voilà, il y a des faux amis qui sont plus que des faux amis, qui sont redoutables.
Des amis perfides.
Voilà, mais donc le laurier a été associé très très tôt à la royauté des latins et c'est resté. Bon, après il y a beaucoup d'autres choses. Il y a Apollon qui harcelait Daphné, n'est-ce pas ? Daphné, ça veut dire laurier en grec. Et pour libérer cette pauvre nymphe des avances d'Apollon, on l'a transformée en arbre. C'est pas formidable, je trouve, pour elle.
Il y a une sculpture
de
Bernin merveilleuse.
Oui, la sculpture de Bernin,
entre justement la belle Daphné,
qui devient...
dont la pointe des doigts se transforme
déjà
en feuille.
Voilà.
On a l'impression qu'on voit la métamorphose.
Exactement.
Alors, Daphné meurt, transformée donc en laurier,
et le saule
pleure.
Il pleure, oui.
Bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep for me. Gone my lovely dream. Lovely summer dreams gone and left me here to weep my tears along the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Say that love has sinned to leave my heart a sign and crying alone. Murmur to the night, hide its starry light, so none will find me sighing, crying all alone.
Le soul donc qui en français pleure et qui en anglais sanglote, comme nous dit Billie Holiday, Willow, oui. Weep For Me. Est-ce qu'il arrive souvent justement que les imaginaires autour des arbres et de leurs noms soient les mêmes dans les différentes langues, Henriette Walter? Alors, je vous pose cette question parce que vous êtes spécialiste de la comparaison entre les images portées par les langues diverses.
Et la plupart du temps, en effet, il y a ce qu'on appelle les étymologies populaires. Qui font que finalement elles influent un petit peu sur l'évolution.
Bien et sûr, à force qu'on les raconte.
Comme on a souvent parlé avec Pierre Avenas, il faut en tenir compte, même si c'est faux. Voilà, il y a des choses fausses qui se produisent.
Et il y a parfois même des fausses traductions. Je repense à Goethe et à Schubert avec le roi des aulnes, dont on imagine en français que c'est le roi des arbres, alors qu'en fait, il renvoie en allemand à quelque chose de différent.
Exactement.
Qui sont les elfes. En réalité, c'est le roi des elfes.
Ce sont les elfes.
Et quand vous discutez de cela avec une personne germanophone, Erlkönig, ça ne veut rien dire pour elle. Oui. C'est le nom, Erlkönig, c'est tout. En fait, c'est la traduction de Nodier, Charles Nodier, qui a induit cette expression « roi des zones » qui finalement est typiquement française. C'est assez étrange. Mais ça colle bien avec, bien sûr, l'aulne qui vit dans des zones marécageuses, mystérieuses, et qui évoque un peu le...
Voilà. Et alors, il y a autre chose, ça me fait penser à autre chose, où c'est le français qui est tout seul dans son coin, c'est avec comment dirais-je? La traduction, l'avocat, l'avocatier, disons, l'avocat.
Là aussi, il y a une coïncidence.
C'est
là.
Ça. Oui. C'est seulement en français qu'il y a la confusion avec notre avocat, le juriste, disons. Oui. Tandis que, en fait, c'est un guacate qui est un nom d'origine aztèque et qui est c'est le mot espagnol aguacate qui est devenu avocat en français. Donc,
vous nous emmenez. En Amérique centrale, ou en tout cas dans le sud, disons, de l'Amérique du Nord, dans l'actuel Mexique, est-ce qu'il y a beaucoup de noms d'arbres qui viennent de ces langues indiennes?
Bien sûr, et on en a. Il y en a qui me viennent à l'esprit.
Il y a le cacaoyer,
il y a tout ce qui est algonquin.
Voilà. Oui, cacao. On est encore dans les Aztèques.
Ça, c'est encore Nahuatl.
C'est comme la tomate, mais évidemment, tomate et chocolat ne sont pas dans notre livre, puisqu'il ne s'agit pas d'arbres. Voilà.
Il y a l'algonquin avec le hikori qu'on évoquait l'autre jour, le pacanier, la noix de pacan, tout ça c'est de l'algonquin. Puis il y a le tupi, il y a beaucoup, tout ce qui est acajou, cajou, c'est du tupi.
Oui. Et qui nous sont venus par le Portugal à ce moment-là aussi. Aussi par le portugais.
Oui, bien sûr.
Oui, parce que ce sont des histoires de colonisation.
Ils sont tous venus.
Parce que comme ça poussait beaucoup au Brésil.
C'est toujours passé par une langue européenne après.
Était une colonie portugaise. C'est venu par la langue portugaise en même temps. Qui a été une grande pourvoyeuse de lexique pour le français. Ça, c'est sûr.
Bien sûr.
Voyons un petit peu comment ces noms d'arbres, on les côtoie parfois même sans s'en rendre compte à travers, par exemple, les patronymes. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Duchesne, qui s'appellent Noyer.
Lafayette.
Justement, il y en a qui cachent
leur
origine. Pourquoi Lafayette? Alors le voilà, mais d'où vient-il?
Tout à l'heure, Pierre a parlé de Fagus, je ne sais plus à propos de quoi. Eh bien, Fagus, c'est le être en latin.
En latin.
Et donc, Lafayette, c'est donc la...
C'est celui qui habitait près d'un bois de hêtre.
Sans doute,
probablement.
Oui. C'est ça. On ne sait pas vraiment comment c'est venu, parce que, évidemment...
Oui, ça venait d'un lieu. Il y avait probablement un lieu, Lafayette aussi.
Il y en a beaucoup, alors. Il y a des Lafayette.
Lafayette. dans la région lyonnaise, on s'appelle facilement Fayard. Il y a même un éditeur Fayard.
Il y a Chassagne aussi. Donc ça, c'est le chêne. Cassanos en gaulois, qui est devenu Cassanus en latin. Et voilà.
Ce qui veut dire que ce mot de chêne vient du langue celtique. Parce que c'est quoi? C'est rebours en latin?
Rebours en latin, oui, c'est ça. Qui est donc le chêne.
Rebours, c'est le chêne rouvre. Ça veut dire robuste. Par contre, c'est en espagnol que c'est resté robreux, qui vient de robure. Voilà, robreux. Oui. Et à quoi je pensais, bon, on cite toujours le Puy du Fou, qui est amusant, parce que Fou, dans le Puy du Fou, c'est en réalité la colline du Hêtre. Hein. C'est Fagus.
Ouais. Et aussi, c'est comme le plomb du Cantal.
Oui, qui serait plutôt la pomme.
Et pourquoi alors le plomb du Cantal et la pomme? Parce que Cantal, ce mot de plomb, c'est la pomme, c'est une transformation.
En fait, en ancien français, on trouve pomme de Cantal, et puis ça s'est transformé en plomb, et plomb du coup fait penser à plomb, et c'est vrai que la masse de la montagne a pu aller vers le plomb plutôt que vers la pomme, mais c'est une exception puisque la plupart des autres s'appellent des puits justement.
Alors on va peut-être terminer avec ce que produisent justement ces arbres, c'est-à-dire des fruits. On disait tout à l'heure que la plupart du nom des fruits sont féminins, les pommes, les poires, les prunes, qu'on retrouve dans des expressions toutes faites, des expressions figurées dont on connaît peu l'origine. Par exemple, pourquoi les prunes équivalent à rien? J'ai travaillé pour des prunes. C'est peut-être pour le roi de Prusse, etc.
Ça aurait pu être une belle fausse étymologie que je compte accréditer largement.
Mais donnez-nous la vraie, Henriette.
Là, c'était simplement, Pierre, rappelez-moi le nom.
Non, mais c'est la deuxième croisade. Et le fait que...
C'est quoi, c'est le début du 12e, ça?
Oui, enfin, on a mis les dates, je n'ai plus vraiment dans la tête la date précise. Mais en tout cas, il y a eu un siège de Damas qui a échoué, et on dit que les soldats ont ramené des pieds de pruniers de Damas. Il faut dire que les prunes de Damas et les prunes de Syrie étaient très réputées depuis l'Antiquité, et on considère en effet aujourd'hui que tous les pruniers cultivés proviennent de cette origine.
Donc on a fait la croisade et tout ça.
Et donc tout ça sont des prunes. Voilà. Les prunes. Voilà. Pour pas grand chose.
Voilà, ça se dit. Puis il y a parfois d'autres choses. On dit tomber dans les pommes, mais ça vient plus ou moins de ce pâmer.
Ça vient d'un mélange
de pâmoison, d'où pomme, etc.
Et être une poire, Henriette Walter. Pourquoi on est une poire quand on est le naïf et qu'on s'est fait gruger par quelqu'un?
Alors là,
peut-être à cause de la forme de la poire. On se souvient qu'il y a eu de nombreuses caricatures. C'était Louis-Philippe.
Louis-Philippe, on met l'image, Daumier
l'a transformé en poire. On pense même que en prendre plein la poire, ça vient peut-être de cette caricature.
Oui, mais on dit, il y en a pour ma pomme. C'est pour ma pomme.
Aussi.
Petit matin calme autour de nous, il n'y a rien d'autre que nous. Autour de l'arbre, il n'y a rien d'autre que nous.
Choisignons. Kerenan qui nous chante autour de l'arbre, pour terminer cette édition de la danse des mots, autour d'arbres nombreux donc, et surtout autour de ce beau et gros livre qui se lit très facilement, avec beaucoup de plaisir et un petit peu comme un magazine, on va, on revient, on s'arrête, on change de chapitre. Ça s'appelle « La majestueuse histoire du nom des arbres », du modeste noisetier au séquoia géant. C'est publié chez Robert Laffont, c'est signé par Henriette Walter et Pierre Avenas. Merci encore à vous deux d'être venus dans cette danse des mots proposée par le réseau Canon.